Bonjour David.
Bonjour, comment ça va?
Pour commencer, je vais dresser une liste de qualificatifs qui, à mon sens, te représentent bien. Et tu me donneras ton avis là-dessus. Alors, trois quarts français, un quart portugais, journaliste, humoriste. Qu'est-ce qui manque?
Il manque mon deuxième spectacle, Délicieux, que je joue actuellement et que je vais continuer à jouer pendant encore un bon moment à Paris. Et en tournée dans tout le monde francophone. Et peut-être, et aussi à Lisbonne. Je pense que je vais aller à Lisbonne comme la dernière fois.
Oui, parce qu'on va en parler de ce spectacle. Donc, Délicieux, c'est le nom de ton second spectacle. Le premier s'appelle Authentique. On va revenir là-dessus. Simplement, pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux balayer comme ça rapidement ta carrière? Comment tu as commencé dans le monde des médias et comment on se retrouve tous les deux ici dans le hall de France Inter, de Radio France?
Alors, j'étais un dandy pendant longtemps. Je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. Et puis finalement, je me suis dit, journaliste, c'est pas mal, ça permet de, surtout ça permet d'apprendre des choses chaque jour, et ça c'est quelque chose que je suis sûr de bien aimer, d'apprendre des choses chaque jour. Et donc j'ai passé au bout d'un moment un concours d'une école de journalisme, qui s'appelle l'Institut français de presse, je suis rentré dans cette école, j'ai ensuite fini mes études de journalisme aux États-Unis à Berkeley, et ensuite j'ai essayé de travailler le mieux que j'ai pu. Dans un premier temps, je faisais des web documentaires à l'époque où c'était cool, donc un court moment à la fin des années 2000. Et je codais, je faisais le graphisme, je prenais des photos et tout. J'ai fait ça pour Le Monde, pour France 5. Finalement, j'ai été embauché le vrai moment où ça, en fait, le début du moment où ça a commencé à basculer, j'ai été embauché à l'agence Kappa, qui est une boîte de production à Paris, qui était très prestigieuse à l'époque, qui travaillait pour Canal+, pour France 5, qui faisait plein d'émissions de reportages prestigieuses. D'abord comme larbin, ensuite j'ai proposé ma propre chronique qui s'appelait Le Chiffroscope, qui était une chronique en dessin animé et qui répondait à des questions sur l'actualité internationale, un peu avec des blagues en dessin animé.
Ça a été le moment de bascule, Le Chiffroscope, pour toi?
Ouais, ça a été le premier moment de bascule dans le sens où j'avais proposé un truc à cette boîte, Canal+ l'a accepté. Voilà, j'ai eu un peu de succès dans mon milieu. Et ensuite, les étapes qui ont suivi, c'est j'ai fait Depuis quand sur Canal+, qui est ça, qui était une série où je parlais des origines des choses de la vie, où j'allais partout dans le monde pour connaître les inventeurs des choses. Et cette série, c'était pour Canal+ aussi. Et là, je l'ai faite entièrement seule. C'est-à-dire, c'est moi qui faisais le montage, c'est moi qui la produisais même. Et là, à partir de là, j'ai commencé à avoir des gens qui me suivaient. C'est-à-dire des gens qui aimaient bien mon travail. Donc, j'ai eu des followers sur les réseaux sociaux. Ensuite, il y a eu la série sur la Suisse et puis les chroniques. Et c'est comme ça que de fil en aiguille. Si, j'ai été chef de service au Monde aussi. Ça, je l'ai un petit peu moins maintenant, mais j'avais vraiment un pied dans le journalisme quotidien. Et en même temps, je faisais des blagues et j'ai travaillé pour Gorafi aussi. C'est le moment où Gorafi, c'est la première fois où j'ai écrit des blagues pures. C'est-à-dire où il n'y avait pas d'informations dedans. Ouais. C'était maintenant, il y a plus de 10 ans, il y a 12 ans. Et voilà. Et de fil en aiguille, j'ai fait des chroniques sur Europe 1, sur Arte, et maintenant sur France Inter.
Donc, on l'entend, France Inter, Europe 1, Arte, Le Monde. T'as commencé aussi sur TSF Jazz. Il y a le Gorafi. Maintenant, il y a Combini. On te demande sur France Inter de faire de l'humour. Donc, il y a toujours t'as toujours joué sur cette ligne de crête entre journalisme et humour.
Je dirais pas toujours, mais quand même depuis vraiment longtemps. Quand je faisais mes web documentaires en 2009, là, il n'y avait pas de blague dedans. Mais très vite, il y en a eu parce que c'est ma pente naturelle, quoi. Y compris quand j'étais chef de service au Monde, je poussais les gens. Parce que en tant que chef de service, j'ai aussi été chef de le service vidéo. Et quand je suis arrivé avec mon co-chef, on a vraiment recentré la chose sur l'explication, mais avec l'idée de genre, essayez d'être divertissant, donc pourquoi pas drôle, quoi.
Et moi, j'ai une théorie, tu me dis ce qu'elle vaut. Est-ce que finalement, en fait, t'as toujours voulu être humoriste, mais peut-être que quand tu étais jeune, ça remonte à il y a pas si longtemps, mais contrairement aujourd'hui où il y a une vague de tout le monde veut être drôle, tout le monde veut se montrer sur les réseaux, tout le monde veut faire rire, tout le monde veut être humoriste, c'est stylé d'être humoriste aujourd'hui. On le voit avec le dernier roman de David Fuenkinos qui s'appelle Je suis drôle. Il l'explique très bien. Peut-être que toi, c'était pas tout à fait le cas. Et tu t'es dit, je vais devenir journaliste, ça va me crédibiliser, je vais avoir un statut. Mais en fait, moi, ce que je veux, c'est faire rire les gens.
C'est que très tardivement, que j'ai compris que il y avait quand même pas mal de gens, même autour de moi, qui me trouvaient drôle. Même, je dis pas genre, pas des gens du public, quoi, genre juste des gens autour de moi.
Ton entourage.
Mon entourage, quoi. J'avais, alors que je faisais quand même des blagues, et je pense que les gens riaient, mais j'avais pas fait ce truc de, peut-être que je sais un peu faire ça. Et donc, non, c'était pas du tout dans le périmètre des choses que j'avais en tête. J'avais un groupe de musique dans lequel on faisait un peu des blagues, mais l'important c'était quand même, les chansons sont bien, il se trouve qu'elles sont un peu drôles, mais enfin quand même c'est des chansons et je veux qu'on les considère comme des chansons, qu'elles soient bien. Et non, c'est assez tardif, en fait. C'est, ça date de... J'avais 30 ans, quoi.
Mais ce second degré a toujours existé chez
oui,
toi.
Oui, oui. J'ai toujours fait des blagues depuis longtemps. J'ai fait avec mes amis, quand j'avais 18 ans, des petits films qui étaient censés être drôles. J'ai fait ce groupe de musique avec des chansons qui étaient censées être drôles aussi. Et de fait, ouais, je pense qu'il y avait un... il y avait un quelque chose de cet ordre-là, mais de me considérer comme professionnellement drôle, c'est ça que genre c'était pas envisagé dans mon esprit, quoi. Et à partir de 30 ans, j'ai fait ah si, ouais, peut-être, en fait. Voilà, c'était il y a 14 ans.
Parce que David Castello-Lopez, t'es l'homme du second degré, t'es l'homme du décalage, tu fais de l'information avec humour, tu te moques dans certaines de tes vidéos des pratiques de riches alors que tu as toi-même investi des milliers d'euros dans une montre et vendu pour plus de 15 000 euros de t-shirt en l'assumant, tu es juif non circoncis, enfin voilà, ça va jusque là le décalage dans ta chair.
C'est pas moi qui ai choisi de ne pas me circoncire, hein. C'est pas, enfin on peut dire que maintenant si, maintenant je pourrais me faire circoncire, je ne l'ai pas fait, mais au départ ce n'est pas un choix personnel.
Et étant l'homme du décalage, ton premier spectacle s'appelle quand même Authentique.
Oui, oui, oui.
Il n'y a aucun second degré dans l'authenticité.
Je pense qu'on peut tout à fait être décalé et authentique. C'est pas dire des choses fausses que d'être décalé. C'est ça. Je sais d'ailleurs, franchement, je sais pas ce que ça veut dire trop. Le terme décalé, c'est un terme quand on, c'est un terme, moi, qu'on utilisait et qu'on utilise encore quand, tiens, en fait, c'est un petit peu différent de ce à quoi on s'attend dans une situation donnée. Mais je serais vraiment en galère de donner une définition de ce que ça veut dire.
Parce que quand on dit décalé, c'est décalé par rapport à quelque chose, et qu'est-ce que ouais, c'est que ce quelque chose?
Ouais, ouais. Il y a des moments où c'est clair. C'est-à-dire que je me souviens, dans les avions, pendant longtemps, il y avait des petits films sur la sécurité qui étaient très, quand on faisait des longs courriers, ouais, qui étaient très premier degré. Voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a un moment où ils ont commencé à être décalé. C'est-à-dire que il y avait des blagues dans ces petits films pour dire mettez bien votre ceinture, faites ci, faites ça. Je me souviens très bien du moment d'ailleurs, c'était il y a 15 ans, où ces petits films ont commencé à être décalés. Voilà, je saurais pas très bien dire en quoi je suis décalé, mais en tout cas, j'essaye de faire des blagues. Et authentique, authentique, c'était, en fait, c'est un très très bon sujet pour faire des blagues, l'authenticité. Les choses qui s'appellent authentiques elles-mêmes, genre, moi je suis quelqu'un d'authentique, c'est pas drôle en soi, mais ça, essayer de décortiquer ce que c'est que l'authenticité, de pourquoi nous, les êtres humains, on l'est pas, et pourquoi d'ailleurs c'est une question qui se pose que pour nous, pas pour, genre, les saumons ou les loutres, tu vois, c'est pas, ben non, elles sont juste fondamentalement authentiques. Nous, en fait, on a conscience de nous-mêmes, donc on peut présenter un visage qui n'a rien à voir avec ce qu'on est vraiment. On peut dire non, mais je suis trop content pour toi, alors qu'en fait on n'est pas content pour toi. Voilà. Et donc c'était un bon sujet pour faire un spectacle avec du fond et aussi des blagues dedans.
Et dans ce premier spectacle authentique qu'on peut retrouver, il me semble, en replay là sur France Télévisions en ce moment, tu te décortiques toi-même. Je veux dire, même physiquement, il y a des passages très drôles où tu décris par exemple ton visage.
Oui. Je parle de mon de la note de sexitude que je me donne, qui est de 13 sur
13, c'est ça,
qui est de 13 sur 20, qui est en fait un peu une moyenne de ce que j'ai fait, de ce que les gens m'ont dit dans ma vie.
Te sous-estimes, je pense. Surtout que là, la fame fait gonfler la note.
Ah oui, c'est vrai que la fame, c'est un oui, surtout, mais c'est un truc tristement masculin, ça. C'est-à-dire qu'effectivement, la fame augmente ta sexitude, ce qui est moins le cas, je pense, en moyenne. Pour les femmes, oui, c'est vrai, un petit peu, mais je pense, si on analyse juste mon visage et mon physique comme ça, je pense que ouais, il y a des moments où peut-être je suis un peu plus que ça, mais dans l'ensemble, très sûrement, ça me paraît être une note correcte. Il y a vraiment des gens qui me trouvent l'air, genre vraiment pas sexy, on me l'a déjà dit frontalement, tu vois. Donc c'est pour ça que 13 sur 20, je pense que
on est toujours le laidron de quelqu'un de toute façon.
Ah, je pense que Johnny Depp n'est le laidron de personne.
Aujourd'hui, ça se discute.
Peut-être un peu. Mais il y a des gens qui m'ont dit, genre à n'importe quel âge de sa vie, je sais qu'il est, il n'est pas physiquement pareil, mais à n'importe quel âge, ok. Alors on verra. Peut-être quand il aura 80 ans, si jamais il les atteint, ça changera. Mais je soupçonne qu'il va mourir sexy.
Et ça, c'est ce que tu disais de la fame, c'est aussi très masculin.
Bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Et je sais pas exactement comment ça s'explique, si c'est entièrement construit socialement ou pas, mais oui, le fait est que je sais que moi, ma barbe a blanchi très très vite il y a 2 ans.
Ça plaît souvent.
Et moi, j'ai fait, oh non, c'est horrible, c'est horrible. Et j'ai vu que D'une certaine façon, peut-être que ça augmentait légèrement ma sexitude auprès de certaines personnes. Alors que c'est vrai que quand j'étais un jeune freluquet, j'étais inintéressant au possible pour tous les gens que j'essayais avec lesquels j'aurais bien aimé faire des bisous.
Et on va en parler de ce jeune freluquet que tu étais à un moment. Est-ce que ça t'agace quand on t'appelle David Castello Lopez ?
Quand on m'appelle à l'oral David Castello Lopez avec en faisant le z et non pas le se, ça va. Quand on l'écrit, ça m'agace. Ah ouais, ça m'agace et c'est vraiment et ça continue beaucoup et même des gens qui sont fans de moi et qui viennent à mes spectacles et qui m'envoient des mails après et qui mettent un putain de z quoi. Et donc ça m'agace, mais j'essaie de faire en sorte que ça ne m'agace pas. Pour une raison très simple, c'est que oui, en fait, c'est une version moins courante d'un nom
plus commun
qu'on connaît très bien. Voilà. Mmh. Et Sergi Lopez, Jennifer Lopez, c'est un Z quoi. Et il se trouve qu'il y a une petite frange des Lopez qui sont portugais ou d'origine portugaise où c'est pas un Z, c'est un S. Et c'est comme ça. On est moins nombreux. C'est pas très grave. Voilà. Mais quand même, ça m'énerve.
Et puis surtout que Castello Lopez, il y a de quoi prêter à confusion pour les Français. On ne sait pas s'il y a deux L dans Castello, on ne sait pas s'il faut mettre un S ou un Z à la fin.
C'est vrai. Et les deux L, on me les met. On fait très rarement la faute de ne pas me mettre les deux L. En revanche, Costello.
Costello, c'est fort.
Costello, c'est fort. Mais je pense que c'est le même principe. Il y a Elvis Costello, il y a des Costello plus connus, quoi. Mm-hmm. Et le Castillo, je pense, pour la même raison. Donc j'ai eu des Costillo Lopez. Voilà, un peu agaçant.
Alors, un quart portugais, le Portugal, il a toujours existé dans la construction de ton identité ou...
Non, ça a vraiment toujours été là. Je suis né franco-portugais. J'ai passé beaucoup de temps au Portugal dès ma naissance. J'ai eu des nounous portugaises. Ma mère était 100% française, mais elle avait appris le portugais, donc elle était totalement bilingue en portugais. Donc, en fait, tout le monde pouvait parler portugais, tout le monde parlait un peu portugais, même si mon père était franco-portugais déjà, et donc mon père parlait parfaitement français aussi. Quand on était au Portugal, voilà, le portugais et le Portugal sont présents dans mon existence depuis toujours, et encore très présents aujourd'hui. Je parle la langue, j'ai la nationalité.
Et tu interviens dans des vidéos encore récemment, il y a deux mois, McFly et Carlito t'ont invité pour goûter des plats portugais.
Tout à fait. Les goûter et les noter. Et d'ailleurs, il y a Carlito qui a mis la pire note possible à la nourriture portugaise. Et juste après, avec la vidéo sur la Suisse ou la nourriture suisse, putain, s'il y a vraiment une nourriture qui est moins bien que celle du Portugal, c'est quand même la nourriture suisse où c'est de la charcute et du fromage et il y a aucune transformation, pas de savoir-faire. Désolé pour la Suisse. Vous avez vraiment énormément de qualité. Juste, vous avez pas celle-là, quoi. Et juste, il met la meilleure note possible, quoi. Ça m'a vraiment.
C'est de l'ordre de la provocation.
Et le cuisinier portugais a dit qu'il avait un palais de Doberman. Putain, c'est vrai quoi. C'est genre on lui jette du gras au visage, il fait ouais vas-y cool.
Tu viens d'où au Portugal? Enfin ton père, enfin tes grands-parents. J'ai toujours un peu de mal avec cette question parce que tu viens d'où? Toi tu es né ici à Paris dans le 12e, mais.
Mon père a quand même avant de connaître ma mère, il a connu ma mère à 40 ans. Et avant ça, il habitait à Lisbonne ou dans la région de Lisbonne. Ses parents à lui, donc c'est sa mère était française de Brive-la-Gaillarde, mais son père était de Riachouche dans le Ribatejo.
Et tes parents se sont rencontrés quand ta mère avait 40 ans ?
Quand mon père avait 40
ans. Quand ton père avait 40 ans. Et ta mère avait ?
Ma mère avait 23.
Et alors quel est le cadre de cette rencontre ?
Ils se sont rencontrés dans le même hôtel en vacances sur la Costa Brava en Espagne, à Cap Sassal. Bâtiment, ce n'est plus un hôtel, mais qui existe toujours. Je suis allé en pèlerinage avec ma mère. C'était très émouvant, quoi, parce que c'était l'endroit où c'était 53 ans plus tard, quoi. Donc c'était très émouvant, quoi.
Là, tu donnes une interview pour Radio Alpha, qui est la radio de la lusophonie en France. Est-ce que Alpha existe dans ton imaginaire d'une façon ou d'une autre? Je te demande pas si tu l'écoutes quotidiennement, mais est-ce que ça existait? Comment?
Ça existait à un moment très précis de ma vie, début des années 90. Il y avait une fille qui me gardait à la maison, qui était portugaise, qui s'appelait Vera, et Vera écoutait Radio Alpha. Et elle était fan des chanteurs portugais, dont quelquefois il était question sur Radio Alpha, et en particulier de un, dont je ne sais pas s'il est toujours vivant ou pas, qui s'appelait Luís Filipe Reis. Et elle était genre mais fan
en portugais.
Fin, on dit fin, F-A tilde, quoi. Donc j'ai ouais, fan.
Ça, c'est vraiment la prononciation et le mot illisible pour le français.
Oui, oui, fin.
Comme tous les trucs en oinch, comme camoinch.
Camoinch, ils ont beaucoup de mal.
Magaliaïnch, ils ont transformé en Magellan.
Magellan, quoi. Et elle adorait Louis Philippe Reich. Louis Philippe Reich, il y avait des posters de Louis Philippe Reich. Et donc, j'écoutais un petit peu Radio Alpha à l'époque avec elle. Et elle écoutait surtout. Et elle faisait, oh là là, regarde, on peut gagner des places pour les concerts de Louis Philippe Reich à Champigny, sur Marne.
Bien sûr.
Comme ça.
Corbeil-Essonne.
Voilà, exactement.
Bonneuil-sur-Marne.
Exact, exact. Et c'est vraiment le moment où j'ai pris conscience de Radio Alpha. Donc, c'est début des années 90. Par le biais de Vergreil, que je connais.
Et on a toujours des nouvelles de Ver aujourd'hui?
Bien sûr. Mais je l'ai vue il n'y a pas si longtemps, elle est venue à mon spectacle. Je la vois toujours une fois de temps en temps, quoi. Elle est venue cet été au Portugal. Mon père était photographe et il y a eu une petite place à Lisbonne qui a été inaugurée qui porte son nom, le jour de ce qu'aurait été son centième anniversaire, le centième anniversaire de sa naissance. Et Vera était là.
Peut-être écoute-t-elle encore Radio Alpha aujourd'hui, elle sera contente de t'écouter à l'antenne.
Franchement, s'il y a quelqu'un qui écoute Radio Alpha, je dirais que c'est Vera Guerrero, qui habite tout ça, à Saint-Cyr, l'école.
Tu viens de le dire, ton père était photographe. Est-ce que tu gardes quelque chose de cet aspect artistique de ton père?
Bah, énormément. Déjà, j'ai voulu être moi-même photographe. J'ai pas eu le courage de l'être. Et le fait que mon père soit photographe et le fait, j'ai envie de dire surtout que moi-même, j'ai fait beaucoup de photographies dans son sillage, ça a quand même exercé mon œil. En fait, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à faire de la vidéo, je sais composer une image. Et je le fais, je crois, assez bien. Et si je le fais bien, ça vient de là, quoi.
Alors, changeons complètement de sujet. David, tu n'es pas politique. Du tout. C'est-à-dire que beaucoup d'humoristes aujourd'hui font de l'humour politique, se moquent de l'actualité, se moquent de certains hommes politiques, de certains partis, etc. Toi, tu n'es pas politique du tout, et en cela, tu es très politiquement correct, finalement.
Oui, c'est très vrai. Enfin, quand on dit politiquement correct, on veut dire faire une remarque politique qui soit pas dangereuse politiquement. C'est ça qu'on veut dire quand on dit politiquement correct. C'est-à-dire, on va dire, tiens, quand on parle de tel sujet qui est très politique, je vais dire ça, et du coup, j'aurai pas de problème. Je pense que c'est ça qu'on veut dire. Après, il y a des sujets.
Bah, de toute façon, toute attitude est politique.
Oui, oui, tout à fait. Oui, et le fait de pas s'engager politiquement, c'est de droite, tout ça, machin. Je connais tout ce truc-là.
j'ai pas dit ça.
Mais je connais. Non, ce que je veux dire, c'est.
Donc, tu es de droite?
Non, je suis pas de.
Ah oui, voilà, d'accord.
Mais il y a le fait de ne pas faire de politique dans son travail, n'est pas, ça veut pas dire qu'on n'a pas, des pensées politiques. Ça veut dire qu'on ne, l'objet de mon travail n'est pas la politique parce que j'ai pas de choses intéressantes à dire dessus. Ça me fait pas rire ça me fait très peu rire quand c'est les autres qui le font. Politiquement correct, ça veut pas dire, il y a des sujets qui ne sont pas politiques, en fait. Si je te dis, ou pas politique, disons, ou alors ils vont être politiques parce qu'on dit, bah oui, le fait qu'ils ne soient pas politiques, en fait, c'est politique, mais c'est différent d'avoir des sujets qui sont profondément traités par la politique. Tu vois, nous, toutes les questions économiques, sociales et géopolitiques, on pourrait dire que c'est des trucs qui sont politiques. Les questions de genre, c'est politique. Les questions de pauvreté, de richesse, c'est politique. Les origines du surimi, pas, en fait. En tout cas...
La condition animale.
Oui, mais je suis d'accord, mais moins... Tu vois, moins, c'est-à-dire que c'est peut-être un mauvais exemple, le surimi, je sais pas, les origines du basket, voilà. Là, le sujet que j'ai fait aujourd'hui.
Sur France Inter.
Sur France Inter, dans ma chronique, le savon, tu vois. Évidemment, tu vas pouvoir toujours politiser quelque chose, mais disons, tu vas pas, c'est pas clivant. C'est ça que je veux dire, en fait. Et il y a des gens, et c'est vrai qu'il y a des sujets qui, des fois, ne sont pas clivants et le deviennent.
Si
tout à coup il y a un scandale sur le savon et que je te fais un truc sur le savon, oui, mais effectivement je parle de sujets qui ne sont pas clivants. Voilà, c'est ça, et ça c'est très vrai. Et deuxième chose, quand tu parles, les gens qui parlent d'actualité, donc en particulier de politique, bah ils parlent tous de la même chose, puisque c'est l'actualité, puisqu'il faut le faire, puisque c'est maintenant. Et du coup, tout le monde se retrouve très souvent à faire des blagues qui sont un peu les mêmes, quoi. Et historiquement, j'ai ce truc que c'est un humour qui me plaît pas, enfin qui me fait pas énormément rire dans l'ensemble. Il y a des exceptions, mais dans l'ensemble. Et par ailleurs, c'est quand même une façon pour moi d'être sûr que je suis le seul à parler d'un truc du savon, quoi. Voilà. Et bien sûr, je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça méprisable. En fait, à partir du moment où t'as la possibilité de parler publiquement, il faut parler de politique, sinon
avoir un avis, donner son opinion,
dénoncer, et pour eux c'est un devoir, c'est pas le devoir qui me semble être le mien, et j'ai pas de choses constructives à dire là-dessus.
Alors j'évoquais tout à l'heure le zouk très brièvement dans les sujets non clivants qui peuvent le devenir. Est-ce que tu peux nous raconter cette affaire du zouk?
Ouais, le zouk, je faisais cette série sur Canal+, qui s'appelait Depuis quand. C'était les origines de la chose de la vie, depuis quand ça existe les choses de la vie, et j'ai fait 50 épisodes, et j'ai fait un épisode sur le zouk. Et dans cet épisode sur le zouk, je parlais donc des origines de cette danse et de cette musique caribéenne, et je faisais des blagues un peu porno sur le zouk.
Zouk et baiser? Oui. Oui, oui. La bite? Oui.
Et l'un des inventeurs du zouk, Jacob Desvarieux, il me l'a dit, alors je ne l'ai pas mis dans l'épisode, mais enfin il m'a dit lui-même, bien sûr que c'est érotique le zouk, quoi. Et je me suis pris, on m'a traité de raciste très 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 fort. Et je pense qu'une des... C'était le début de ça. Je pense que si on m'a traité de raciste, c'est pas à cause de ce que j'ai dit, c'était parce que c'était moi, blanc, qui le disais.
Oui, qui tu es va déterminer les perceptions sur ce que tu vas dire.
Exactement. Qui est un truc qui existait beaucoup après mai 68, c'était d'où parles-tu, camarade. En gros, en fonction de qui tu es, tu ne peux pas dire les mêmes choses. Et donc, je me suis pris, c'est là que je l'ai découvert un peu. Des centaines de messages qui me traitaient de sale raciste. On m'a dit qu'on allait venir me casser la gueule, tout ça. Finalement, on ne m'a pas cassé la gueule. Vraiment, petit shitstorm à ma petite échelle. On n'est pas sur du méga bad buzz.
Et alors, par contre, il y a eu un déferlement sur les réseaux sociaux, mais qui a été positif. C'est quand tu as sorti ta vidéo « Je possède des thunes ».
Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Du coup, j'achète des trucs. Et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent « Putain, il a des trucs. Moi aussi, je voudrais des trucs. »
Est-ce que ça te gave quand on dit que tu n'es connu exclusivement que grâce à cette vidéo, ou qu'on te parle infiniment tout le temps de cette vidéo, on te ramène tout le temps à « Je possède des thunes »
Alors, tout le monde me ramène pas tout le temps à « Je possède des thunes », mais ça reste la chose la plus connue que j'ai faite, c'est-à-dire que c'est des proportions qui n'ont rien à voir avec mes autres succès, quoi. C'est des dizaines et des dizaines de millions de vues.
Et tu as reçu des appels de maisons de disques.
Oui, tout à fait. Tout à fait, j'ai reçu des appels de maisons de disques. Après, j'ai sorti la version moi-même parce que le buzz était fini. Mais on a toujours envie d'être connu pour plusieurs choses. C'est pas la chose dont je suis le plus fier. Et donc, il y a deux choses, en fait. C'est t'aimes être connu et apprécié pour la chose dont t'es le plus fier et la dernière chose que tu as faite. C'est toujours plus agréable qu'un truc que t'as fait il y a longtemps et dont t'es un peu moins fier que le reste. Donc oui, c'est pas le truc qui me fait le plus plaisir quand on me dit ça.
Mais alors là, s'il y a une catastrophe, que tu traverses la rue et que ça se passe mal, tu es fier du savon?
La dernière chose que j'ai faite, je suis fier du savon. Mais enfin, il y a un truc quand même dans les chroniques. Tu peux être content d'une chronique. Mais une chronique, il y a un plafond. Les chroniques, ce sera jamais le truc dont je suis le plus fier, parce que c'est un mode d'expression limité, tu vois. C'est t'es devant un micro avec les trucs, des fois tu savonnes un peu, et puis tu peux pas faire de montage. Peut y avoir un peu de musique, mais enfin pas grand chose. C'est de fait, t'es limité créativement. Donc ce sera jamais le truc dont je serai le plus fier de ma vie. J'aimerais qu'on me dise, oh putain, son dernier spectacle. C'est vraiment très très bien.
Et on y vient justement, ton dernier spectacle qui s'appelle Délicieux, est-ce que tu peux nous en parler? Un spectacle sur le plaisir.
Ouais, c'est le thème du premier, c'était l'authenticité, là c'est le plaisir, et en particulier c'est tous les plaisirs qui sont pas des plaisirs évidents, parce que quand on dit délicieux, on pense à nourriture, c'est bon, on mange de la nourriture, ou alors faire l'amour avec des gens.
Plaisir. Attends, mais on peut dire, enfin tu dirais délicieux pour faire l'amour avec quelqu'un? Oh là là, c'était vraiment délicieux hier soir.
C'est un peu un délicieux au sens... c'est plutôt quand on dit plaisir délicieux, on pense à la nourriture. On peut dire, c'est une situation délicieuse. C'est un tout petit peu littéraire de le dire, mais on peut. Et quant à faire l'amour, on va pas dire, effectivement, on va assez peu dire que c'est délicieux. Mais quand on pense plaisir, si tu te dis plaisir, tu vas dire, si j'appelle le spectacle le plaisir, tu vas penser sexe et nourriture en premier, je pense. Mais, plein d'autres choses qui peuvent provoquer le plaisir et des choses un peu tortueuses, quoi. Il y a des choses, on peut se réjouir du décès de quelqu'un, par exemple, qu'on n'aime pas. On peut se réjouir, du malheur des autres en général. On peut se réjouir, on peut ressentir du plaisir à ses propres triomphes de façon un peu exagérée, tu vois. Donc, c'est surtout ça que ça décortique le spectacle, c'est tous ces plaisirs difficilement avouables, quoi. Les plaisirs de connard, quoi. tu vois.
Et comment ces questionnements autour des plaisirs de connard sont arrivés?
Mes spectacles, c'est les trucs les plus longs que je fais. Tu vois, ça dure 1h15, alors que la plupart des autres choses que je fais ne dépassent pas 7 minutes encore pour les trucs les plus longs. Là, t'as coûté un truc 1h15. Donc, et moi, j'aime bien qu'il y ait un thème et avoir une démonstration d'un début à la fin, avoir des choses à dire. Et donc, moi, en permanence, si tu veux, dans mon téléphone, je prends des notes depuis toujours. Avant, je le prenais sur des carnets, maintenant, je peux le prendre sur mon téléphone. Et puis, à un moment, quel thème est-ce qu'à mon avis peut tenir sur une durée d'1h15? Ça pourrait être autre chose, mais il se trouve que je dis, ah, sur le plaisir, je pense que j'ai suffisamment de choses à dire et un propos suffisamment cohérent et développé pour que ça tienne la longueur.
Et où est-ce qu'on peut le voir, ce spectacle délicieux?
Alors, on peut le voir à Paris, mais là, c'est complet jusqu'au mois de juin. Mais ça recommence au mois de septembre. Donc, on peut le voir à Paris au Théâtre Libre à partir du mois de septembre. Et on peut le voir un peu partout en France et dans le monde francophone, quoi. Et je vais passer aussi au Portugal, à Lisbonne. Je ne sais pas encore quand, mais dans le courant de 2027.
David, tu es né en 1981. Ça te fait quel âge, toi, aujourd'hui?
44 ans.
Est-ce que le David collégien, il serait fier du David de 44 ans?
Très fier. Je pense vraiment qu'il serait très fier. En fait, tu sais, t'as une sorte, j'avais déjà une sorte de partie de ma personnalité et l'envie de faire des choses un peu créatives. Et c'est même pas que je me disais que c'était pas possible, c'est que c'était même pas, c'est pas genre j'aimerais beaucoup, mais je vais pas y arriver. C'est genre, c'est même au-delà des trucs envisageables, quoi. Et pourtant, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui, quoi. Il n'y a pas de différence. J'ai mis vraiment moi-même dedans. Et pour les gens qui me connaissaient il y a longtemps, il y a avant que je fasse quoi que ce soit, il y a 25 ans, 30 ans, il y en a beaucoup qui me disent, c'est fou, quoi. C'est genre, c'est une continuité exacte de la personne qu'on a connue quand on était adolescent et qu'on faisait des blagues dans la cuisine, quoi. Donc oui, je serais fier et c'est une des ma vie est pas que joyeuse, il y a eu des choses très très tristes, mais ça c'est vraiment une des grandes joies et une des grandes fiertés de mon existence, quoi, d'avoir pu devenir ce que je pouvais même pas rêver d'être, quoi.
Dans la préparation de cet entretien, j'ai été aidé par une stagiaire, Inès, que je remercie, qui m'a donné une fiche avec tout plein d'informations sur toi, et tout en bas de sa fiche, il y avait écrit meilleur ami, 2 points, Clément Beaune. Là, faut m'expliquer.
Oui, Clément Beaune, bah, c'est l'ancien ministre des Transports et aussi ancien secrétaire d'État aux Affaires européennes. Et il se trouve que c'était mon meilleur ami au lycée.
Donc au lycée Condorcet.
Au lycée Condorcet à Paris, qui était un bon lycée pour les bons élèves. Et donc évidemment, quand on est dans un bon lycée pour les bons élèves, la probabilité qu'il y ait des futurs ministres dedans est plus élevée, quoi. Et oui, c'était pas juste dans ma classe. C'était mon meilleur ami. Meilleur ami, c'est moi, je l'appelais tous les jours. On passait toute la journée ensemble en cours. Puis je rentrais et on s'appelait une nouvelle fois. Et voilà. Et c'est resté un ami. Il est moins présent quotidiennement dans mon existence qu'à l'époque, mais c'est resté un ami. On s'est jamais perdu de vue, quoi.
Vous avez vécu plein de premières fois ensemble, j'imagine.
Oui. Mais mon premier amour, qui s'appelait Adrienne, il a été ami avec lui aussi. Et genre, je lui parlais tous les jours de mes chagrins d'amour avec elle, de à quel point c'était compliqué, puis aussi des plaisirs. On est partis tous ensemble en vacances ensemble plusieurs fois. Ouais. C'était 16-17 ans. Le cœur du moment où on était très très amis, c'est ces deux années-là, 16-17 ans.
Et on embrasse, parce qu'on leur a cité du monde dans cet entretien, on embrasse donc Vera, on embrasse Inès, oui. On embrasse Clément, on embrasse Adrienne aussi.
Tout à fait.
Des nouvelles d'Adrienne?
Des nouvelles d'Adrienne que j'ai revues pour la première fois depuis presque 20 ans, il y a 2 ans maintenant, en 2024, qui habite à Besançon, qui était une élève exceptionnelle et qui est devenue normalienne et qui est professeure de littérature à l'université de Besançon et que j'ai revue et j'ai passé 2 heures avec elle et c'était vraiment un très grand bonheur parce que c'est quelqu'un qui a énormément compté pour moi, mais genre structurellement, quoi, même si on n'est plus ensemble depuis 2000, donc ça fait quand même un petit moment, mais elle a été très importante dans ma vie.
Comment tu prépares tes small talk pour Combini, puisque tu es aussi très connu pour ces... Oui, on entend des bruits derrière, il y a un monsieur qui fait son métier, je fais le mien, il fait le sien. Oui,
il lave les vitres du rez-de-chaussée de la maison de la radio.
Exactement, et c'est pas bien grave. Tu es essentiellement connu aujourd'hui pour ces small talk pour Combini. Comment tu les prépares? Parce qu'en fait, j'imagine que derrière cette improvisation, cette non-préparation, il y a une préparation énorme.
Je fais exactement comme tu dis que t'as fait, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, alors qui n'est pas stagiaire, elle, qui est rémunéré, qui prépare les interviews. Et ensuite, je regarde quand même un certain nombre de choses de la personne. En particulier, s'il y a une promo, je regarde la chose de la promo. Donc, alors très peu de livres. Hein. C'est pas pour des livres que les gens viennent. C'est pour des films ou des albums ou des vidéos. Et c'est vrai que de fait, on a un peu moins à bosser que si on interviewe, je sais pas, Claude Lelouch sur son œuvre et qu'on doit se taper les 67 films de Claude Lelouch pour être bien au courant, quoi.
Oui, oui, évidemment. Après, derrière toute improvisation, il y a quand même beaucoup de travail.
Oui, mais c'est il y a un truc de ta personnalité, de ce que tu es, et de t'es quelqu'un de 44 ans qui a vécu des choses dans sa vie et qui a peut-être un peu réfléchi, donc tu peux rebondir.
Parmi tous les small talks que tu as réalisés, il n'y a eu qu'un seul homme politique au tout début, ouais. Et puis pas n'importe lequel, ouais. François Hollande.
Oui, c'était au tout début de small talk, mais quand je dis au tout début, je pense que c'était la troisième personne que j'ai interviewée. Et c'était d'ailleurs très sympa, donc j'étais quand même un petit peu impressionné. Non seulement parce que c'était le début de Smalltalk, maintenant j'ai interviewé quand même énormément de gens connus, donc ça a baissé un petit peu à quel point je suis impressionné. Mais voilà, et plus d'hommes ou de femmes politiques, en fait c'est un choix, ça pour le coup, de ma part, pour deux raisons. La première, c'est que une interview comme Smalltalk, c'est une machine à rendre les gens sympas. Et ça, c'est pas grave quand c'est des chanteurs ou des chanteuses ou des vidéastes. Quand c'est un homme ou une femme politique, c'est tout de suite il y a des implications plus grandes sur le pays, quoi. Tu vois, ils peuvent être élus un peu grâce à toi. Et l'interview sera nécessairement complaisante. C'est dans la nature même, c'est-à-dire que je vais pas être là pour poser genre non, vous avez dit ça, mais vous êtes quand même un connard d'avoir dit ça, non? Parce que quand même vous vous êtes contredit. Ce sera pas ça, et donc ce sera complaisant, donc ce sera une mauvaise interview politique nécessairement. Et donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que on met ensuite le doigt dans quelque chose qui est t'as reçu lui ou elle, pourquoi t'as pas reçu lui ou elle, et maintenant il faut que tu reçoives lui ou elle puisque t'as reçu lui ou elle. Et j'ai pas envie de mettre le doigt là-dedans.
Recevoir Hollande, quand même, c'était pas anodin. Parle-nous de ce moment. Surtout que tu dédies une large partie de ton premier spectacle authentique à François Hollande.
Le moment, il doit durer 7 minutes sur 1h30. C'est une partie. Il y a une partie sur lui, c'est vrai. C'était pas anodin. C'était bien sûr pas anodin. Encore une fois, ça l'était d'autant moins que je commençais à faire des interviews de gens connus. J'en avais pas vraiment fait dans ma vie, assez peu. Oui, j'étais un peu genre, oh, c'est le président. D'ailleurs, c'est une des seules personnes que j'ai vouvoyé dans Smalltalk. Parce que vraiment, l'idée de tutoyer l'ancien président de la République, non, ça m'allait pas. Mais c'est pas le seul. Il y a deux autres personnes que j'ai tutoyées dans mon souvenir. Élise Lucet et Léa Salamé.
Et le père de Médine.
Mais c'était pas strictement lui que je recevais. C'était Médine et effectivement, effectivement. Il y a un truc d'âge et il y a un truc de... Oui, je sais pas, c'est un truc que tu ne sens pas de tutoyer la personne.
Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait d'être venu l'interviewer? Parce que de plus en plus, c'est toi, en fait, le gars connu qu'on vient voir.
Oui, en fait, ça a été un peu concomitant. En fait, on a commencé à beaucoup m'interviewer en même temps que j'interviewais beaucoup. Pour mes spectacles, pour mon premier spectacle, je sais pas combien, j'ai dû faire 80 interviews, quoi, un truc comme ça. Donc, depuis que je fais quand même du journalisme et des trucs qui marchent un peu, on m'interviewe. Donc, j'ai eu quand même le temps de me roder un petit peu à ce que c'est que d'être interviewé, quoi. Là, je vais faire Quotidien dans quelques jours. Je l'ai fait déjà une fois. Voilà. Ça me terrorise pas. Mais c'est qu'il y a un enjeu, quoi. C'est-à-dire que, d'un coup, si tu fais de la merde, il y a beaucoup de gens qui voient. En termes de promo, c'est un truc qui fait vendre beaucoup de place. Donc, tu peux ne pas rater au sens où, genre, t'as rien dit qui est de nul, t'as pas fait de bide, t'as pas fait, mais tu peux faire aussi un truc un peu plat qui ne donne pas envie aux gens d'aller te voir en spectacle. Et ça, voilà, c'est le petit enjeu, quoi.
Pour conclure, David, moi j'ai commencé en donnant toute une série de qualificatifs te concernant. Est-ce que tu peux me donner toute une série de qualificatifs concernant le moment qu'on vient de passer?
Eh ben écoute, c'était très précis dans les questions. Ça c'est bien précis. C'était doux et ça s'explique aussi par l'endroit où on est et par le temps qu'il fait. C'est-à-dire le rez-de-chaussée de la maison de la radio, c'est quand même un endroit qui est un petit peu joli. Il y a des immenses baies vitrées qui donnent sur les arbres qui commencent à fleurir avec le printemps. Il fait beau, il fait doux, on est bien. Voilà, donc doux et précis.
Merci David.
Merci à toi.